En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, lors des entretiens organisés par l'Académie des sciences morales et politiques, fut proposée le lundi 5 novembre 2012 une relecture de l'œuvre de Raymond Aron, qui était membre de cette Académie, 50 ans après la parution de son ouvrage majeur « Paix et guerre entre les nations ». La retransmission vous est proposée sur Canal Académie en deux parties, deux émissions. Voici cette seconde partie dans laquelle vous pouvez entendre les exposés des académiciens Thierry de Montbrial et Jean-David Lévite.
Nous allons écouter l'orateur suivant, qui est M. Thierry de Montbrial, sur le point de vue du théoricien des relations internationales.
Bien, je vous remercie. Je voudrais faire deux petites remarques préliminaires. La première, c'est que je viens d'ailleurs. Quand je dis « je viens d'ailleurs », je veux dire que j'étais à l'origine fondamentalement mathématicien, que je suis d'ailleurs resté à certains égards. J'ai fait une thèse aux États-Unis en économie mathématique, tous mes premiers livres étaient dans ce domaine, et j'ai découvert les relations internationales en 1973, à peu près au même moment que je devenais chef du centre d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay. L'avantage de ce genre de situation, c'est qu'on voit, on jette notamment sur les œuvres intellectuelles un regard neuf et probablement différent. Et ma deuxième remarque, c'est que je vais, après avoir dit beaucoup de choses, je crois, admiratives et que j'ai conservées pour Raymond Aron, je vais quand même me montrer critique dans mon propos. Mais je ne doute pas un seul instant que si Raymond Aron entendait les critiques que je vais formuler, il les aurait peut-être non seulement approuvés, mais déplacés et fait des critiques à mes propres critiques, puisque c'était fondamentalement sa manière d'être, qui rend d'ailleurs compliquée sa lecture, puisque les objections apparaissent à l'intérieur de chacun de ses développements. Deuxième remarque, c'est que j'ai rencontré Raymond Aron, il m'avait invité à déjeuner peu de temps après, justement, que je sois devenu le très jeune chef du Centre d'analyse et de prévision en 1973. Et il m'avait parlé donc de paix et guerre, m'avait donné envie de le lire, et je l'ai lu pour la première fois intégralement dans son édition d'origine de 1962, annoté à chaque page. Je l'ai lu l'été 1976, très précisément, et relu, peut-être pas intégralement, mais plusieurs fois par morceaux depuis. Et d'ailleurs, je me suis attaqué à Clausewitz après, grâce à Raymond Aron, qui m'a donné envie de le lire également dans le texte. Mes impressions générales, ça a été la découverte de la clarté, de la fameuse clarté aronienne, mais qui est aussi une fausse clarté, précisément pour la raison que je viens de dire. Parce que dès qu'on voit un développement et qu'on en est convaincu, apparaissent aussitôt les objections qui vont créer le doute. Mais clarté, tout de même. Je garde aussi, et encore aujourd'hui, l'impression d'une multiplicité de pépites. J'y reviendrai en conclusion tout à l'heure. Je crois que, comme tous les grands classiques d'ailleurs, ce que les lecteurs futurs retiendront, c'est peut-être aussi tel ou tel passage plutôt que l'ensemble. C'est-à-dire les grandes œuvres sont celles où on découvre presque à chaque page des aperçus surprenants. Envie de souligner presque tout. Si vous voulez, quand on a envie de souligner tout dans un texte, c'est quand même assez impressionnant. Et pour quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose, comme je voulais dire, la relation internationale, ma première lecture, évidemment, était une véritable initiation au domaine des relations internationales. Et comme toutes les initiations, ça vous marque pour toujours. Ma dernière remarque préliminaire, c'est que ce livre est d'une facture extrêmement française, aussi par son foisonnement même. On n'imagine pas un livre américain écrit dans ce style. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, je parle sous le contrôle de Pierre Asner, que le livre n'a pas eu aux États-Unis le retentissement qu'il aurait pu avoir, outre le fait qu'il était assez mal traduit, d'ailleurs, ce qui est un autre problème. Alors, ayant dit cela, je voudrais commencer par critiquer le plan du livre, avec lequel je ne me suis jamais senti à l'aise. Le livre a en effet quatre parties, on en a parlé tout à l'heure, théorie, sociologie, histoire et praxéologie. Et ma première remarque sur le plan du livre, c'est que la distinction entre théorie et sociologie manque, à mon avis, de clarté. En tout cas, manque de clarté à mes yeux. Et je me concentrerai sur un seul exemple. La puissance est traitée dans la théorie, alors que les ressources, pour lui essentiellement les ressources économiques, qui conditionnent la puissance, ou qui les conditionnent en partie, sont traités dans la sociologie. Pourquoi l'espace, le nombre et les ressources sont-ils abordés dans trois chapitres différents et sur le même plan, alors que les deux premiers sont fondamentalement des facteurs de puissance particuliers? En fait, n'est-ce pas, quand Aron parle essentiellement des ressources économiques, c'est-à-dire ce que les économistes appellent les facteurs de production, avec une distinction qu'il fait aussi entre la Terre qui apparaît, ou l'espace, si vous voulez, qui apparaît dans deux endroits différents, puisque la Terre et l'espace apparaissent dans un sens que nous appellerions aujourd'hui géopolitique, et il apparaît par ailleurs dans les ressources économiques, c'est-à-dire en tant que facteur de production. Alors que pour moi, tout cela est un seul et même concept qui revêt des faces différentes. Alors, je me permettrai de dire, je sais que c'est peut-être pas très élégant dans une session de ce genre, mais j'ai moi-même publié il y a 10 ans un livre qui a été plusieurs fois réédité, qui s'appelle « L'action et le système du monde », que j'ai écrit en grande partie d'ailleurs en pensant à Raymond Aron. Et la solution que j'ai trouvée pour ce problème des ressources, c'est de prendre une acception large des ressources, ce que Aron appelle parfois aussi des forces, c'est-à-dire en traitant sur le même plan les trois catégories de hyper-facteurs de production, en généralisant la notion de facteur de production. La première catégorie comprend les ressources humaines, au sens le plus large du terme, le capital humain avec toutes ses composantes. La deuxième comprend les ressources morales, c'est-à-dire avec des éléments stables, à des degrés de stabilité d'ailleurs variables dans le temps, la culture et les idéologies qui se ressemblent, mais se situent à des échelles temporelles différentes, et des éléments aussi instables dans ces ressources morales, comme les passions ou les émotions. Et je note au passage que la géopolitique, le terme de géopolitique, intervient chez Raymond Aron. Incidemment, je me réfère toujours à l'édition originale, c'est-à-dire de 62, et non pas de ses propres commentaires de 84, ou ce qu'il a pu faire après. Je me limite strictement, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Si on doit reprendre tout ce qu'il a écrit avant, après, et si on y ajoute tout ce qu'il pourrait dire s'il était encore vivant, ça devient extrêmement compliqué. Donc, je m'en tiens stricto sensu à l'édition de 1962. Donc, la géopolitique chez Raymond Aron, évidemment, c'est la géopolitique allemande essentiellement, c'est-à-dire une géopolitique qui avait, à l'époque où il écrivait, mauvaise presse. Et je rappelle incidemment que le terme géopolitique, aujourd'hui utilisé partout, n'a fait son apparition dans son acception actuelle que dans les années 80. C'est un retour récent. Et dans le langage d'Aron, ce que nous appelons aujourd'hui la géopolitique, c'est ce que lui appelle la diplomatie. C'est un point, quand il parle de problèmes diplomatiques, etc., c'est ce que nous appelons, nous, problèmes géopolitiques. Mais il faudrait sans doute faire une analyse sémantique plus fine. Alors, je voulais dire à propos de la géopolitique dans son sens actuel que pour moi, la géopolitique, c'est une ressource particulière, une ressource morale particulière, c'est-à-dire l'idéologie relative au territoire. Et la troisième catégorie des ressources, ce sont les facteurs de production au sens économique du terme, avec la fameuse distinction terre, travail et capital. Mais encore une fois, la terre doit être entendue à la fois dans le sens aronien d'espace et dans le sens de ressources économiques. Ce sont deux notions complémentaires et, à mon sens, en fait, indissociables. Et il faut, me semble-t-il, aussi raisonner sur la chaîne ressources, pouvoir, puissance. Ressources dans le sens que je viens d'indiquer, pouvoir au sens capacité de mobiliser les ressources dans une direction déterminée, et puissance au sens, dans ma propre conception, passage à l'acte. Alors que malgré toutes les explications très étendues que donne Raymond Aron sur la distinction entre pouvoir et puissance, je pense que c'est, de mon point de vue peut-être trop mathématicien, la distinction n'a jamais paru totalement claire. Pour moi, la distinction fondamentale entre pouvoir et puissance, c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte est toujours une discontinuité. Et d'ailleurs, l'impuissance, au sens que dans tous les domaines, c'est précisément être incapable de passer à l'acte. Alors même qu'on a, théoriquement, la capacité de mobiliser les ressources. Ce sont des distinctions, je crois, importantes. Et il y a une dernière notion qui est très importante, qui est évoquée par Raymond Aron, mais pas totalement clarifiée, de mon point de vue, qui est la notion de potentiel. Le potentiel, en effet, est souvent confondu avec les facteurs de production, au sens large du terme. Ça revient à confondre, pour les économistes, la fonction de production avec le produit, ou si vous voulez, les facteurs de production qui servent à produire quelque chose, de confondre ces facteurs avec le produit lui-même. Le potentiel ne peut exister qu'en tant que notion qualitative, c'est ce qu'on peut virtuellement réaliser à partir des ressources dont on dispose. Alors ça, Aron en parle, même fréquemment, mais peut-être pas avec une clarté suffisante. Alors maintenant, j'en viens à la troisième partie du livre. Donc ce que je viens de dire, c'est qu'il y a certains recouvrements entre la première et la deuxième partie qui ne sont pas totalement satisfaisants pour l'esprit. La troisième partie, qui est consacrée à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire celle de 1960, on en a largement parlé ce matin, constitue, comme il le dit lui-même, une histoire du système planétaire à l'âge thermonucléaire, qui couvre une quinzaine d'années, avec là aussi de nombreuses incrustations théoriques. Alors, ça a été évoqué ce matin aussi, mais ce qui est très amusant quand on lit ça, avec un œil neuf, c'est qu'on voit aussi, de même qu'on voit beaucoup de références historiques dans les parties théoriques, on voit aussi beaucoup d'incrustations théoriques dans les parties, en particulier la troisième partie dont je parle à l'instant. Et cela étant dit, cette troisième partie constitue un peu un livre dans le livre, et on a dit ce matin d'ailleurs que Aron lui-même apparemment a effectivement hésité sur la place de cette troisième partie. Alors tout ça est évidemment très daté et fait davantage partie de la réflexion sur la façon dont à cette époque on se représentait les problèmes du moment. Mais mon malaise maximal est dans la dernière partie, c'est-à-dire celle qui s'appelle praxéologie. Alors d'abord, pourquoi praxéologie ? Pour moi, la praxéologie, c'est plutôt la science de l'action, donc ça englobe un peu le tout, si vous voulez. Alors pourquoi est-ce qu'il a réservé le terme praxéologie spécifiquement à cette quatrième partie ? C'est une question qu'on peut se poser. Quoi qu'il en soit, cette partie comprend 6 chapitres. Les 2 premiers, sous le chapeau « Enquête d'une morale », sont consacrés respectivement à la dialectique « idéalisme-réalisme » et au thème weberien de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. Or, de mon point de vue, ces 2 sujets relèvent aussi bien de la théorie. Et ils s'insèrent parfaitement dans la chaîne ressources-pouvoir-puissance à laquelle j'ai fait allusion. Dans le premier cas, c'est-à-dire la dialectique idéalisme-réalisme, c'est le problème en fait des fondements même de la théorie. On est au fondement même de la théorie. Et dans le second cas, c'est-à-dire l'éthique de conviction et de responsabilité, on est dans la question de la théorie de la décision et des fondements de la stratégie. Ce thème, ce dernier thème, comprend en particulier la question de la fixation des objectifs, c'est-à-dire des objectifs de l'action, des objectifs de la décision, des objectifs de la stratégie. Et ces objectifs peuvent être définis, ça aussi c'est un thème général, au sens étroit, la notion d'intérêt au sens étroit, ou au sens large, puisqu'on sait bien que la notion d'intérêt est une notion également flexible, sans même parler du mélange des passions et des intérêts, pour faire un clin d'œil à Hirschman. Et d'ailleurs, ici et là, Aron montre très bien d'ailleurs que les objectifs peuvent être également dans l'au-delà, par exemple la gloire. Il insiste énormément sur la gloire comme objectif, et l'une de ces citations qui revient plusieurs fois d'ailleurs, c'est « la grande politique veut de la puissance, mais pas elle-même, mais afin d'accomplir une œuvre ». Ce n'est pas la notion d'œuvre, mais cette œuvre, évidemment, elle reste en définitive dans la mémoire des hommes. C'est une œuvre qui s'apparente en définitive au souvenir que l'on va laisser, et pas seulement une œuvre concrète. Alors, les 2 chapitres suivants, toujours dans la partie intitulée « Praxéologie », dans ces 2 chapitres, Aron s'adresse aux décideurs, il s'adresse explicitement aux décideurs, et là il recherche une stratégie occidentale pertinente pour le début des années 60, c'est-à-dire dans le contexte de l'époque. Et ces chapitres auraient pu aussi bien trouver leur place dans la troisième partie, puisque la troisième partie était consacrée justement à l'analyse du temps présent. Et je vous disais que la quatrième partie était celle qui me donnait le plus de malaise. Mais dans la quatrième partie, les chapitres qui me laissent le plus de malaise dans le malaise, ce sont les 2 derniers, c'est-à-dire ceux où il s'interroge sur l'alternative classique de la paix par la loi et la paix par l'empire. Alors, ces sujets, d'abord, peuvent évidemment être traités de différents points de vue, mais certainement, en particulier, du point de vue de la théorie. Dans le premier cas, c'est-à-dire la paix par la loi, je dis bien par la loi et non pas par la loi dont nous parlions ce matin, ça c'est un mauvais jeu de mots. Alors, dans le premier cas, donc, c'est-à-dire la paix par la loi, c'est le problème de la construction dans le temps d'institutions ou des institutions de la coopération internationale. Et ça, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la gouvernance. Or, ça, c'est un sujet théorique par excellence. C'est un sujet même très fondamental de la théorie. Dans le second, c'est-à-dire la paix par l'Empire, je crois qu'on peut aborder, on aurait pu aborder ce problème, on devrait, à mon avis, l'aborder dans la théorie, c'est le problème, en fait, de la stabilité, de la robustesse, de la fragilité, plus ou moins grande, des unités politiques, au sens aronien, c'est-à-dire des États. Jean-Baptiste Durosel a été mentionné, par exemple, le fameux livre, insuffisamment connu d'ailleurs, ou trop méconnu, de Jean-Baptiste Durosel, « Tout empire périra », est un exercice typique d'application du concept de fragilité d'une unité politique. Et incidemment, on oublie trop souvent que la chute de l'Union soviétique, donc le phénomène de 1989-91, c'est deux phénomènes superposés en réalité, puisque c'est à la fois la chute du système communiste, mais c'est aussi la chute de l'Empire russe, c'est-à-dire la chute du dernier grand empire. L'histoire du XXe siècle est une histoire de chute d'empire. Ça commence après l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, et ça finit avec l'Empire russe, mais l'Empire russe, il s'écroule d'un seul coup, alors que les autres se sont écroulés dans des conditions très différentes, surtout d'ailleurs les empires coloniaux européens, qui ont mis 30 ans finalement à tomber. Alors, au total, la distinction introduite dans Paix et guerre entre les niveaux de compréhension ne m'a, en tout cas moi, jamais totalement convaincu. Et peut-être aurait-il pu se contenter en fait de deux parties qui auraient été, une, la théorie, mais dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus systématiquement ordonné, et l'histoire. La théorie et l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il fallait quatre parties, mais peu importe. Pour le théoricien des relations internationales, d'ailleurs, les concepts empruntés à la science politique, par exemple la légitimité, pour prendre un exemple, ou les concepts empruntés à la sociologie ou à l'économie, sont des outils qui sont utilisés dans ses propres élaborations théoriques. Et l'histoire, c'est en somme, ça a été dit d'ailleurs ce matin, mais je le dirai en espérant pas être trop réductionniste, ce sont des études de cas du point de vue du théoricien. Alors, il me semble que la difficulté, en définitive, vient de ce que Aron ne dit nulle part dans ce livre, ce qu'il entend par théorie. Alors, bien sûr, il a écrit, par ailleurs, en particulier un article de 67, qui est bien connu, « Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ?» Mais il parle de théorie, mais il ne dit pas ce que c'est que la théorie, selon lui. Alors, évidemment, n'ayant pas défini la théorie, ça pose un problème de classification. Disons que je ne vais pas, évidemment, me risquer à faire un exercice épistémologique sur cette question maintenant, mais je voudrais tout de même rappeler que, quelle que soit la manière dont on définit la théorie, on progresse dans la connaissance par des cheminements un peu popériens, du genre, à un certain moment, il y a une théorie sur un sujet, mettons, relations internationales, il y a des faits, on rapproche les faits de la théorie, ça conduit à un certain nombre de questions, ces questions conduisent à des réponses, les réponses qui remettent en question et la théorie et les faits que l'on veut observer, et ceci dans une chaîne sans fin. Et c'est typiquement selon un schéma de ce genre que l'on peut progresser sur la notion de système international. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui est justement la question du système international. La première partie, c'était une réflexion sur le plan du livre. Alors, qu'on le veuille ou non, Aron donne une définition très précise du système à la fois précise et imprécise, en fait, du système international. J'appelle, écrit-il, système international, l'ensemble constitué par des unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres des relations régulières et qui sont susceptibles d'être impliquées dans une guerre générale. Ou encore, le centre des relations internationales, ce sont les relations interétatiques, celles qui mettent aux prises des unités en tant que telles. Et dans une conception parfaitement classique ou réaliste, Aron précise, je le cite encore, « Chaque unité revendique le droit de se faire justice elle-même et d'être seule maîtresse de combattre ou de ne pas combattre. » Il n'y a pas d'ambiguïté dans ces définitions. Et la dernière remarque en particulier paraît très obsolète à la lumière des développements des dernières décennies. J'y reviendrai. Alors, la définition d'Aaron, l'approche d'Aaron est très proche de celle encore plus concise de Kenneth Waltz, qui est aussi l'une des grandes références du réalisme américain, de la théorie de la relation internationale américaine, que je cite, « Les États », il dit tout simplement, Waltz, « les États sont les unités dont les interactions forment la structure du système international ». Ces définitions sont aux antipodes de celles d'un auteur français comme Marie-Claude Smoots qui écrit « L'objet des relations internationales est le fonctionnement de la planète ou, pour être plus précis, la structuration de l'espace mondial par des réseaux d'interaction sociale ». Là, c'est vraiment la définition au pôle opposé. Alors, ceci soulève en fait deux problèmes majeurs. D'abord, aussi bien pour Aaron que pour Waltz, les termes « système » et « structure » sont employés de manière vague. Nulle part n'est définie la notion de système ou la notion de structure. D'ailleurs, on n'a pas le temps de creuser ça, mais d'un point de vue fondamental, ce n'est pas innocent. Et il est vrai que nous étions à l'époque, d'ailleurs, du structuralisme triomphant dans les sciences sociales, et je me souviens notamment du temps où les facultés de sciences économiques donnaient des cours « système et structure » économiques qui ont d'ailleurs disparu du paysage. Le deuxième problème, c'est que Aaron ne définit pas ce qu'il entend par « unité politique ». Et on pourrait lui faire le reproche qu'il fait lui-même à Tocqueville dans ce livre, et il reproche à Tocqueville de n'avoir, ou il remarque que Tocqueville n'a jamais défini rigoureusement ce qu'il entendait par société démocratique, dit Aaron à propos de Tocqueville. Eh bien, moi, je dis, Aaron ne définit nulle part ce qu'il entend par unité politique, sauf pour l'identifier de facto aux États. Donc, unité politique apparaît pratiquement toujours comme synonyme d'État. Et il en résulte une simplification extrême qui interdit de comprendre un monde dans lequel la réalité des relations internationales dépasse largement celle des États, comme on l'a dit, ce qui ne veut pas dire qu'il l'ignore, mais il le traite d'une façon juxtaposée et séparée. Ça n'est pas intégré dans une même théorie. Et ceci permet de comprendre l'accusation de holisme dont Raymond Aaron a tenté d'ailleurs de se justifier dans la préface de 84 de la réédition qui a été mentionnée plusieurs fois. Et je mentionnerai rapidement deux inconvénients majeurs de ce holisme. D'abord, au niveau de la prévision, ni Waltz ni Aaron ne semblent avoir jamais envisagé que l'URSS pourrait s'écrouler de l'intérieur, contrairement aux axiomes initiaux de Kennan. Alors, je sais bien que, nous avons bien entendu que Pierre Asner nous a dit que ce n'est pas vrai, mais je ne vois nulle part dans ce livre, et j'aimerais bien le trouver, je ne vois nulle part dans ce livre un développement envisageant la possibilité même de la chute de l'Union soviétique. Et j'ajouterais même que dans le dernier livre de Raymond Aron, qui s'appelle « Les dernières années du siècle », publié peu de temps avant sa mort, ce livre, je l'ai lu d'extrêmement près, pas une fois l'hypothèse de la chute de l'URSS n'a été envisagée. Or, d'un point de vue de la notion de prévision, n'est-ce pas, je pense d'abord qu'il n'y a pas de théorie s'il n'y a pas de prévision. Théorie, dans n'importe quel domaine, les théories n'ont d'intérêt que si elles permettent de formuler des prévisions. Et ce qu'il faut bien voir sur la notion de prévision, c'est qu'une chose est de dire qu'un événement peut se produire, mais avec une très faible probabilité. Une autre, parce qu'il y a des événements de très faible probabilité qui se produisent, nous le savons bien. Je rappelle, par exemple, tirer au sort un nombre réel entre 0 ou 1 a une probabilité a priori nulle, et pourtant, on en tire 1. Donc, ça montre qu'il peut y avoir des événements de très faible probabilité qui se produisent. Mais ne pas envisager qu'un événement se produise, c'est d'un autre ordre que de fait de l'envisager avec une faible probabilité. Alors, autre chose, c'est que la lecture de Paix et Guerre ne prépare pas à l'intelligence du phénomène de la mondialisation, même si, comme partout chez Aaron, on trouve des remarques ici ou là qui sont passionnantes. Par exemple, il mentionne à un certain moment, et fait allusion à Paul Valéry, au monde fini de Paul Valéry. Et il écrit en note, ça c'est tout à fait typique, n'est-ce pas ? À vrai dire, écrit Raymond Aaron, Valéry songeait moins à l'occupation de toute la Terre qu'à la mise en communication de toutes les fractions de l'humanité, de toutes les régions de la planète. Ça, c'est évidemment l'essence de la mondialisation. Donc, ça fait partie des petites pépites dont je parlais tout à l'heure. Incidemment, et malgré les 18 leçons sur la société industrielle et bien d'autres écrits d'Aaron, dans Paix et Guerre, la technologie joue un rôle très faible, sauf pour les questions d'armement. Or, c'est bel et bien la mutation des systèmes technologiques qui est la cause fondamentale à la fois et de la chute de l'Union soviétique et de la mondialisation. Alors, c'est d'ailleurs à toute cette problématique que j'ai essayé moi-même dans mon livre « L'action et le système du monde » de répondre en formulant d'autres concepts, et notamment un concept d'unité politique plus large que celui des États, par exemple, qui permettent d'inclure des unités comme Al-Qaïda ou d'autres groupes humains organisés et qui jouent des rôles d'acteurs majeurs dans les relations internationales. Alors, je terminerai par quelques remarques qui reprennent un petit peu les questions soulevées dans la quatrième, à propos de la quatrième partie, c'est-à-dire, est-ce que ce livre est paix et guerre, ou est-ce que c'est guerre et paix, à part le fait qu'il y a eu Tolstoï avant. Alors, à la fin de sa présentation sur la jaquette verte, enfin verte turquoise de la première édition, et se référant aux deux derniers chapitres de son livre, Aron écrit ceci: « En un exercice de pensée utopique, je cherche les conditions de la paix par la loi ou par l'Empire. Dans l'immédiat, ces conditions ne sont pas réalisées et la paix ne sera rien d'autre que l'absence ou la limitation de guerre. Mais l'utopie conserve peut-être une vertu positive s'il est vrai qu'à l'âge thermonucléaire, seule est raisonnable, donc réaliste, une politique de paix. » Alors, cette citation rejoint aussi des remarques faites par Pierre Asner tout à l'heure. Il avait certainement une obsession de la paix, et d'ailleurs, ça figure aussi dans la première partie de cette jaquette. Mais en réalité, paix et guerre traitent essentiellement de la guerre, et la paix n'apparaît que comme des interludes entre des conflits armés. Et le scepticisme de Raymond Aron pour des notions comme la sécurité collective, même l'arms control, etc., est partout. Et il peine manifestement à imaginer que le monde puisse évoluer dans le sens d'une sécurité plus collective ou d'une organisation internationale plus structurée, malgré l'envolée de ces deux dernières pages qu'il emprunte à Jean Fourastier, qui spécule en remarquant que l'homo sapiens ou sapiens sapiens représente une centaine de milliers d'années, alors que l'histoire n'a que 5 ou 6 000 ans, et Fourastier spécule sur ce à quoi peuvent ressembler les 90 ou 95 prochains milliers d'années. Mais à part ces genres d'envolées empruntées, il n'y a à peu près rien sur la possibilité de construire un monde entre guillemets meilleur, c'est-à-dire où les conflits soient davantage amortis. Il n'y a rien, ou à peu près, presque rien sur l'Union européenne. Vous me direz, alors communauté européenne, vous me direz, nous sommes en 62, le traité de Rome date de 57. Mais la raison pour laquelle je le note, c'est que ça veut dire que pour Aron, n'a pas partagé l'optimisme des pères fondateurs. Jean Monnet était au niveau zéro de l'intellectualité par rapport à Raymond Aron. Il n'empêche que Jean Monnet a eu une intuition de ce qu'on appellerait dans la théorie moderne de fonctionnalisme ou de l'engrenage, qui, même avec tous les défauts qu'on connaît à l'Union européenne, a montré quand même quelques capacités à progresser dans le sens de la paix et de la prospérité, au moins à l'échelle d'un continent. D'ailleurs, toutes les notions de ce qu'on appelle dans la théorie moderne des relations internationales les régimes, qui sont plus que des alliances et moins que des fédérations, ou des notions comme les idées d'unité politique qui dépassent la notion d'État, tout cela est totalement absent du livre. Et je pense que une théorie des relations internationales, au moins à l'époque actuelle, mais peut-être même déjà à cette époque-là, doit consacrer une place importante à ces problématiques de construction de structures et d'ailleurs du temps nécessaire pour les construire. Je veux dire par là que la géopolitique, pour employer un terme moderne, la géopolitique de la paix est au moins aussi importante que la géopolitique de la guerre. Et je conclurai en disant que, comme en reprenant ma phrase du début, paix et guerre entre les nations est un grand classique et a le statut d'un grand classique. Mais comme tout classique, on le lit pour la première fois, si on ne l'a pas lu avant, ou on le relit avec un regard différent, évidemment, de celui des contemporains. Et ce qui me frappe dans les domaines que je connais, quand je lis des livres dits classiques, par exemple en économie ou dans bien d'autres domaines, qui sont anciens, c'est qu'on s'aperçoit que ces auteurs avaient une vision infiniment plus riche et diversifiée que la manière dont on les présente par la suite dans les manuels ou les réinterprétations, où on les schématise et on les réduit finalement à quelques éléments. Je crois que la richesse extraordinaire d'un livre comme celui-là, c'est précisément ce côté touffu, le fait qu'à chaque page, on trouve un aperçu qui fait réfléchir et qui peut encourager à une réflexion ultérieure. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que Raymond Aron a construit une théorie des relations internationales? Je pense au bout du compte que je répondrai par la négative.
Merci Madame le Président et merci à Georges-Henri Soutou de nous avoir proposé cette relecture 50 ans après de Paix et guerre entre les nations. Moi aussi, j'ai rencontré Raymond Aron. C'était dans une circonstance assez marquante. Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, dont la relation était tendue, comme vous le savez, s'étaient retrouvés dans le bureau de Giscard d'Estaing pour soutenir une bonne cause, celle de l'accueil en France des Boat People. C'était au printemps 1975. Et c'est donc avec le regard du praticien, du diplomate, et non pas celui de l'historien, du philosophe, de l'économiste ou du théoricien des relations internationales, que je vais vous proposer, 50 ans après, ce regard sur un ouvrage majeur et qui nous a tous marqués. Pour résumer d'un mot ma conclusion, même si le livre de Raymond Aron se veut intemporel, il me semble qu'il est profondément marqué par son temps, celui du monde bipolaire et de la menace, vécu comme réel, comme crédible, d'un échange nucléaire et donc de l'extermination massive des deux camps. Et donc, je pense que le monde a changé à un point tel qu'aujourd'hui, sans doute, Raymond Aron aurait écrit un autre livre centré sur d'autres données qui sont devenues aujourd'hui fondamentales, tandis que la menace de l'échange nucléaire entre grandes puissances n'apparaît plus, à tort ou à raison, comme une perspective crédible et donc une priorité des réflexions des acteurs et des penseurs des relations internationales. Alors, je voudrais commencer en rappelant ce qu'était le monde en 1962, qui a eu donc une influence décisive sur l'écriture du livre de Raymond Aron. Bien sûr, la donnée essentielle, structurante, rappelée par les autres orateurs qui m'ont précédé, c'était la bipolarité, fondée sur trois éléments. L'affrontement idéologique, dimension dominante du XXe siècle, siècle des idéologies. Après l'élimination du fascisme et du nazisme, restaient face à face le communisme et le capitalisme dans une lutte sans merci. Deuxièmement, la volonté d'expansion territoriale, impériale, qui était figée au centre, en Europe, par la menace de l'échange nucléaire, mais qui laissait place à la périphérie, à des guerres fraîches, pour reprendre l'expression de Léonid Brejnev. La guerre de Corée, celle du Vietnam, concernant la France d'abord, avant d'impliquer les États-Unis. Et puis la troisième donnée de ce monde bipolaire, c'était la menace, perçue comme réelle, d'un échange nucléaire. Le livre, cela a été rappelé, est sorti au printemps 1962, quelques mois avant la crise des fusées de Cuba, qui débute le 29 août et s'achève le 28 octobre avec le démantèlement des bases de lancement et le rapatriement des missiles nucléaires installés par Khrouchtchev. Mais en même temps, 1962, ce n'est pas seulement la bipolarité et ses trois composantes fondamentales. Il y a les prémices de trois évolutions qui vont imposer leur marque au monde dans les années et les décennies qui suivent. D'abord, c'est la décolonisation. La naissance du tiers-monde, Bandung 1955, suivi du sommet de Belgrade en 1961. Sukarno, Sihanouk, Nehru, Chou En-lai, Nasser, Tito, c'est le tiers-monde en marche. Et pour nous, 1962, c'est naturellement l'année de l'indépendance de l'Algérie qui clôt le cycle de notre décolonisation. Mais 1962, c'est aussi dans le camp de l'Est l'attaque de la Chine contre l'Inde. C'est la rupture, le divorce entre Moscou et Pékin. C'est la Chine de Mao, entre grand bond et révolution culturelle, qui s'enfonce dans la crise et l'isolement. La deuxième donnée porteuse d'avenir et de changement, cela a été dit, c'est la réémergence de l'Europe. C'est l'année de la réconciliation franco-allemande, c'est l'année de la grande visite du général de Gaulle en Allemagne qui a marqué les esprits en Allemagne et en France au mois de septembre, suivie en janvier 1963 par la signature du traité de l'Élysée. Et c'est donc, en effet, la mise en place du marché commun, de la politique agricole commune. Les progrès de l'Europe sont en marche. Et puis, troisième donnée porteuse d'avenir, 1962, c'est aussi l'année du Concile de Vatican II, qui s'ouvre le 11 octobre, qui va transformer l'Église catholique de Jean XXIII à Jean-Paul II, le pape polonais. Donc voilà le tableau du monde et voilà le contexte dans lequel Raymond Aron a publié son ouvrage. Alors, mesurons maintenant l'extraordinaire transformation du monde en seulement 5 décennies. Et là, je ne me place pas du point de vue du théoricien, mais du praticien de la diplomatie. Et les 4 changements majeurs que nous avons eu à gérer me paraissent être les suivants. Premier changement, d'abord sur le plan démographique. La population du monde en 1962 était de 3 milliards. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 7 milliards. Mais au-delà de ce chiffre massif, ce qu'il faut souligner, c'est que la population de la Chine a doublé, de 665 millions à 1,3 milliard. Celle de l'Inde a triplé, de 440 millions à 1,2 milliard. Et des géants démographiques sont apparus, notamment en Asie, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, mais aussi en Amérique latine avec le Brésil et en Afrique avec le Nigeria. Au total, et c'est la donnée démographique fondamentale, le poids de l'Asie est devenu prépondérant. C'est une donnée majeure, c'est une donnée incontournable. Sur le plan démographique et politique, le changement en Europe est tout aussi majeur et massif. En 1962, la communauté européenne des 6, c'était à peine 180 millions d'habitants, face à un camp soviétique de plus de 300 millions, avec une URSS qui en comptait 220. Aujourd'hui, l'Union européenne des 27, c'est plus de 500 millions d'habitants. La Russie, c'est 140 millions d'habitants, et il faut en enlever 700 000 chaque année, puisque la Russie est confrontée à un déclin démographique désastreux. Le deuxième changement après la démographie, c'est naturellement l'économie. Et là, après Jean-Claude Casanova, je voudrais souligner 2 changements qui additionnent leurs effets. D'abord, c'est l'évidence, une nouvelle révolution industrielle aux conséquences sociales et politiques majeures. C'est l'irruption des technologies de l'information, Internet, etc., qui se sont diffusées à une vitesse sans précédent et à l'échelle du monde entier. Et la deuxième donnée économique fondamentale qui a bouleversé l'échiquier mondial, c'est évidemment le décollage de l'Asie, les dragons d'abord, puis la Chine qui a accompli en 30 ans, en termes de PIB par habitant, ce que le Royaume-Uni de l'ère industrielle a accompli en 100 ans et ce que les États-Unis ou l'Allemagne ont accompli en 60 ans. C'est-à-dire le doublement du PIB par tête d'habitant. Et aujourd'hui, la Chine est au deuxième rang mondial devant le Japon troisième. Le troisième changement qui est intervenu et qui pour nous est absolument décisif, c'est évidemment sur le plan géopolitique, c'est la fin du communisme. Gorbatchev, à partir de 1986, a voulu sauver le communisme en le réformant avec la perestroïka et la glasnost. On sait ce qu'il en est advenu. Ensuite, il a voulu sauver l'URSS en abandonnant l'Empire soviétique. On sait ce qu'il en est advenu. Et en 1991, Boris Yeltsin a voulu sauver la Russie en abandonnant l'URSS, et on sait ce qu'il en est advenu. Les 2 ont échoué, mais leur immense mérite, pour le praticien que je suis, est d'avoir évité le recours à la force. Cette implosion de l'Empire et cette explosion de l'Union soviétique ont 3 conséquences majeures vues par le diplomate. Première conséquence, pour la première fois de l'histoire, l'Europe s'est unie non par la force des armes, mais par la volonté librement exprimée de ces peuples. C'est une réussite inouïe quand on y pense, et c'est une réussite que vient justement de couronner le prix Nobel de la paix. La deuxième conséquence de cette implosion du communisme, c'est évidemment à partir de 1991 l'entrée dans une troisième mondialisation de l'histoire après celle des découvertes au XVIe siècle et celle des empires coloniaux au XIXe siècle. La troisième conséquence, elle est évidente, c'est la fin du siècle des idéologies, la fin du XXe siècle, c'est le règne du capitalisme partout, sauf peut-être provisoirement à Cuba et en Corée du Nord. Le quatrième et dernier changement pour le diplomate que je suis par rapport à l'époque de Raymond Aron, c'est l'accélération du temps historique. En 1962, le monde était figé dans l'affrontement bipolaire. À partir des années 1980, l'histoire se met en marche et ne cesse d'accélérer la transformation du monde dans lequel nous vivons. Souvenons-nous, en 1979-1980, les États-Unis étaient dépeints par tous comme sur le déclin. C'était l'époque de Carter, c'était l'époque des otages de la révolution des diplomates retenus en otage à Téhéran avec la révolution iranienne. L'URSS était conquérante, elle envahissait l'Afghanistan, elle livrait bataille à travers Cuba interposé en Angola, elle était en offensive. Et le Japon était communément dépeint comme le futur numéro un de l'économie mondiale. Il achetait Hollywood et l'Empire State Building. 10 ans seulement après, c'est-à-dire en 1990-91, l'URSS, je l'ai dit, explose et disparaît. Le Japon s'enfonce dans le marasme économique et les États-Unis deviennent, sans l'avoir cherché, l'hyperpuissance décrite par Hubert Védrine avec en prime une décennie de croissance économique inouïe. Franchissons 10 années de plus, nous voilà en 2000-2001, c'est 9-11, le 11 septembre, puis en 2003, la guerre en Irak, et tout d'un coup, le monde découvre les fragilités et les limites de l'hyperpuissance américaine. Le monde n'est plus unipolaire, le voilà multipolaire, avec la Chine, l'Inde, le Brésil, d'autres encore, ce qu'on appelle the rise of the rest, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déclin américain, mais la montée des nouveaux géants émergents. Et puis aujourd'hui, 10 ans plus tard seulement, c'est ce que j'appelle the rise of the rest, c'est-à-dire les nouvelles puissances moyennes, l'Indonésie, la Turquie, la Corée, le Mexique, d'autres encore. Nous sommes passés dans un monde qui n'est plus bipolaire, qui n'est plus unipolaire, qui est sans doute apolaire, qui est de plus en plus polycentrique, avec une gouvernance mondiale faible et de ce fait, une menace sur la pérennité de la mondialisation et sur, dans le fond, ce qui a fait cette extraordinaire croissance de ces dernières décennies, un ordre mondial, en quelque sorte, en déshérence. Alors, chers amis, Madame le Président, si Raymond Aron devait écrire aujourd'hui, en 2012, 50 ans après, « Paix et guerre entre les nations », quelles seraient les données majeures qu'il devrait prendre en compte par rapport à 1962 ? J'en vois 3. Premièrement, si la menace de la guerre nucléaire n'a pas disparu, elle a profondément évolué. Aujourd'hui, elle vient plutôt du Pakistan, elle vient plutôt de la Corée du Nord, demain peut-être de l'Iran, voire après-demain de groupes terroristes liés à l'un ou l'autre de ces 3 pays. Deuxième donnée que Raymond Aron devrait prendre en compte, le concept de puissance qui est au cœur de sa réflexion a profondément évolué. D'abord, la puissance s'est diffusée et elle est aussi plus diffuse, sous l'effet de quatre grandes tendances. La première tendance, c'est l'expansion accélérée des nouvelles technologies que je mentionnais. Elles ne connaissent aucune frontière. Deuxième tendance majeure, l'émergence et l'affirmation d'acteurs transnationaux auxquels Jean-Claude Casanova faisait allusion, les grandes entreprises, bien sûr, les grands réseaux de communication, mais aussi les groupes terroristes, malheureusement. Troisièmement, le renforcement de l'interdépendance économique entre les États. Et quatrièmement, l'émergence et l'affirmation des nouveaux géants auxquels je faisais allusion, mais aussi des puissances moyennes qui veulent jouer tout leur rôle et qui rendent de plus en plus complexe le jeu interétatique. Donc le concept de puissance a profondément évolué, elle s'est diffusée, elle est plus diffuse. Mais, et c'est ma deuxième remarque sur le concept de puissance, l'exercice même de la puissance s'est transformé. Bien sûr, les concepts chers à Raymond Aron sont toujours là. Le milieu, c'est-à-dire l'espace, les ressources, c'est-à-dire le potentiel économique, technique, militaire, humain, l'action collective, c'est-à-dire le commandement, l'organisation, la cohésion nationale. Mais il faut y ajouter, avec notamment Joe Nye de la Kennedy School of Government de Harvard, une panoplie nouvelle et qui est très importante, me semble-t-il, ce que Joe Nye appelle le soft power, qui est très important aujourd'hui, sans doute autant que le hard power, le rayonnement culturel, la formation des élites mondiales, l'influence des médias et l'influence sur les médias, et puis, comme cela a été souligné, le poids dans la science mondiale. Le deuxième point cher à Joe Nye et que je reprends à mon compte volontiers, c'est la capacité d'influence des États dans toute la gamme des organisations internationales qui ont proliféré, et pas seulement les Nations Unies, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'OMC aujourd'hui ou les structures informelles de type G8 et G20, mais je pense aussi aux organisations régionales comme l'Union européenne, naturellement, l'Union africaine, la Ligue arabe, tous ces groupes régionaux où les États rivalent pour faire évoluer les positions des uns et des autres, orienter les comportements, influer sur les processus de décision. Au total, l'action internationale est devenue de plus en plus collective et de plus en plus complexe. Enfin, et par rapport à ces chers concepts aroniens, je crois que le monde est confronté à des défis nouveaux et globaux qui imposent une gestion collective. Il ne s'agit plus de jeux à somme nulle, où le gain de l'un représente la perte de l'autre, mais de concessions que chacun doit consentir, certes de façon différenciée selon sa situation, mais pour résoudre ce qui apparaît comme les principaux problèmes du XXIe siècle. Et c'est là, me semble-t-il, la principale nouveauté par rapport aux réflexions de Raymond Aron. Dans le domaine économique et financier, Jean-Claude Casanova en a parlé de façon brillante. Je pense à la crise financière de 2008, je pense à la crise de la dette souveraine, je pense à la crise économique. Tout cela illustre la nécessité d'une gestion collective. Du fait de la globalisation, il ne peut plus y avoir de solution durable que si tous les principaux acteurs s'engagent et s'engagent positivement. Et puis, il y a des mots au sens de MOT, mais mots aussi au sens de MAUX, nouveaux, qui sont apparus, qui n'existaient pas en 1962, qui ne sont pas inscrits dans la charte des Nations Unies, mais qui aujourd'hui pèse sur l'agenda international et sur le destin. C'est sur eux que se jouera l'avenir de l'humanité et l'avenir de la planète. Je pense au réchauffement climatique et à la protection de l'environnement. Je pense à la préservation de la biodiversité. Or, face à ces menaces réellement existentielles, la gouvernance mondiale se révèle faible, impuissante, du fait de l'enracinement des puissances installées et surtout émergentes dans la stricte défense de leurs intérêts nationaux. Voilà, me semble-t-il, le grand sujet pour le Raymond Aron du XXIe siècle. Je vous remercie.
Rappelons que dans la première partie, vous pouviez entendre la présidente Marianne Bastide-Bruguière, puis les points de vue des membres de l'Académie, Georges-Henri Soutou, Jean-Claude Casanova et celui du philosophe Pierre Asner. Thank you.